À toutes et à tous. Je vais reprendre aujourd'hui un sujet qui est au cœur des préoccupations de cette émission qui porte sur l'architecture et sur l'urbanisme, sur le cadre de vie, qui apparaît ces dernières semaines dans les journaux, dans la presse écrite et dans la presse télévisée et radiodiffusée, la France moche. Alors, c'est une préoccupation qui apparaît aujourd'hui, mais en fait, c'est un sujet qui me paraît traverser toutes les époques, où le rôle, justement, des professionnels, mais aussi des élus, donc à travers les élus des populations, c'est d'améliorer, d'embellir le cadre de vie dans lequel ils sont. Alors, cette France moche, tout le monde sait de quoi on parle, ou croit que l'on sait de quoi l'on parle, il s'agit de ces périphéries des villes avec ce qu'on appelle les zones commerciales. Alors tout d'abord, est-ce que ce sont uniquement des zones commerciales? Parce qu'on met en face à cette critique sur cette mocheté supposée, on met en face l'intérêt que trouvent les gens en allant magasiner, comme disent les Canadiens, en tout cas ces zones de chalandise, où on va faire tous ces achats en même temps par rapport à l'émiettement dans les commerces de ville, les difficultés d'accès, et l'on sait donc le grand succès que ces zones ont. Alors, s'agit-il uniquement de zones commerciales? Eh bien, en fait, c'est la partie visible, c'est la partie visible parce que c'est celle qui met le plus en évidence les pancartes. Alors on voit les grands panneaux, mais les bâtiments qui sont sous ces panneaux ne sont pas uniquement des bâtiments de commerce. Alors, ils sont divisés en plusieurs catégories, mais dans l'esprit des journalistes, dans ceux des populations, on appelle ça des alignements de boîtes de chaussures. Alors, si vous me permettez, ça me paraît être assez imbécile comme généralisation et comme propos. Alors effectivement, qu'est-ce que l'on veut dire des alignements de boîtes de chaussures? Il s'agirait de bâtiments qui, on peut dire, en forme de parallélépipède. Mais dois-je vous rappeler que les temples grecs et romains sont des parallélépipèdes et sont sous forme rectangulaire. Et Versailles, qui est aujourd'hui le lieu de la réception du roi d'Angleterre, n'est qu'un alignement de boîtes de chaussures. Ah, vous me direz, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que ces alignements, ils sont justement dessinés et on peut dire avec soin leur aménagement, et tandis que les boîtes de chaussures ne sont pas des alignements, justement, elles sont posées n'importe comment. Alors, la question qui est derrière cela, bien sûr, je ne suis pas naïf, les architectures dont on parle, ce sont des bâtiments en pierre avec un soin des façades, et comparé à des bâtiments qui sont évidemment pas du tout de même nature. Mais la question pour aujourd'hui le gouvernement qui incite cette politique, c'est de mettre de l'argent pour améliorer avec, évidemment, les formules à la mode. On va planter des arbres, on va enlever le bitume, des parkings, on va les remplacer par des terrains boueux ou des champs fleuris. Enfin, tout ça n'est pas très très bien défini. Alors, Encore une fois, comme je vous disais, il ne s'agit pas de zone commerciale, mais il s'agit d'une manière plus générale de tout ce que notre société nécessite, a besoin, et on peut dire il y a, au-delà des commerces, il y a évidemment les entrepôts. Et les entrepôts pour qui ? Ben, les entrepôts pour les commerces en question, mais pas que. Parce que les commerces du centre-ville, on s'imagine que un petit commerce ou une série d'alignements de petits commerces sympathiques, eh bien, a un sous-sol 10 fois plus grand qui lui permet de stocker toutes les marchandises. On sait très bien que ça n'existe pas. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, en fait, ces commerces sont dépendants de zones d'entrepôt qui les charge le matin ou le soir, et qui aussi, c'est un flux permanent de livraison tout au long de la journée, parce que aujourd'hui on ne veut plus attendre comme il y a encore, on peut dire, au siècle passé. On vous disait, ah, ce produit on l'a pas, mais on l'aura dans 3 semaines. Ben, aujourd'hui, 3 heures, c'est un temps d'attente qui paraît extraordinaire. Vous imaginez quand il faudrait attendre un pneu de voiture dans un garage d'une voiture qui serait une voiture étrangère, mais où les pièces détachées, quelles que soient, de rétroviseur ou n'importe quoi, elles vont être dans des entrepôts comme les entrepôts d'Amazon ont tous les produits et qui permettent à des navettes de les amener dans les magasins. Alors qu'ils soient en périphérie ou dans les centres-villes, c'est exactement pareil. Alors ça, c'est le deuxième sujet. Donc c'est les commerces et leurs entrepôts. Alors, encore une fois, vous imaginez que pour une zone commerciale visible, c'est-à-dire une galerie marchande ou des séries de commerces, eh bien, il faut des entrepôts qui soient plus grands que la surface marchande ouverte au public. Alors ensuite, qui fabrique ces produits ? Ces produits de consommation, ben, il y a bien des usines. Et puis, aujourd'hui, dans notre société, qui est une société, pas uniquement de production, il y a un phénomène qui n'existait pas, on peut dire, dans les siècles passés, ce sont les bureaux. Donc, les bureaux, c'est l'administration, la gestion, et on sait que c'est un monde absolument nécessaire. De plus, il y a aussi dans ces zones des activités sportives et autres qui sont en plus. Et évidemment, il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas d'habitation. Alors, dans cette espèce de délire sur la mixité comme la mixité, solution à tous les problèmes, on pense mettre des logements. Or, ça, c'est exprimé par le gouvernement. Comme on n'a pas de solution pour embellir, eh bien, on va mettre de la mixité. Je l'ai déjà dit ici, mais c'est quand même, je pense, la première fois où l'aléatoire, le mélange, est promu comme une politique. Juste jusqu'ici, l'aménagement des villes a été fait justement de classification. On avait des zones qui étaient dédiées à des activités, et on se retrouvait dans la ville avec ces activités. Ceci n'empêchant pas qu'il y ait également une trame d'habitation qui peut passer d'un lieu à un autre, mais en tout cas, la mixité n'était pas une idéologie, on peut dire, et un but en soi. Le but était plutôt d'organiser, de classifier et d'avoir une lecture cohérente, justement, par exemple, à ce que je suis en train de vous dire, les commerces, les entrepôts et les bureaux dans une sorte d'interaction qui soit justement planifiée. Alors évidemment, tout ça n'est pas fait. Alors, La question n'est pas de déplorer ou d'accuser les magasins de la France moche, parce que les gens n'ont pas planté comme ça par hasard, mais simplement on a planifié des zones d'activité, entre guillemets, et évidemment sans les classifier. Et évidemment, c'est le hasard qui a fait les choses, dans la mesure où, pour des raisons démagogiques ou des raisons encore plus graves de désintérêt de la collectivité, des responsables et dont c'est le métier, de ne pas justement planifier, réglementer ces zones. Alors, la raison, elle est connue. La raison, elle est que, comme on voulait, chaque commune voudrait attirer ses zones, on n'a pas voulu faire de règlement parce que les règlements risquaient d'être coercitifs et tout ça. Mais là, on se trompe parce que il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui veut construire, c'est de construire sans règlement au milieu de lieux, il ne va pas savoir qui c'est qu'il va y avoir à côté, donc son bâtiment, il ne sait pas comment bien l'orienter, les voies, elles sont souvent sinueuses, pas du tout planifiées. Encore à Toulouse, on a quelques zones qui sont, on peut dire, assez ordonné sur un plan des voies, mais par exemple Montpellier, qui se vante d'être une ville avec un urbanisme extrêmement performant, les zones tout autour de Montpellier sont des labyrinthes complets dans lesquels on ne peut absolument pas se repérer parce qu'effectivement tout l'effort était mis dans tout ce qui est visible. Alors là, c'est, je crois, un problème central de notre époque et de ne de faire une ségrégation entre ce qui serait, on peut dire, noble, aristocratique, c'est-à-dire les centres-villes, les équipements culturels, et que toute une série de ce qui est la vie de tous les jours, eh bien, on laisse ça sans le planifier. Alors, on peut s'interroger de c'est la faute à qui ? Eh bien, je vous dirais que la faute, eh bien, elle est d'abord, me semble-t-il, aux professionnels. D'abord, on va commencer à la base. Les écoles d'architecture, et je connais bien le sujet, les écoles d'architecture, eh bien, on ne traite pas ces problèmes-là. C'est quelque chose, comment les zones commerciales. Évidemment, on ne fait que des projets qui sont culturels ou près des centres-villes. Et on va faire, évidemment, ce qu'on appelle les dents creuses, que on va faire sur des terrains compliqués, des bâtiments compliqués, et on va aussi prendre des sujets qui sont nobles. Alors évidemment, les musées, comme si tous les architectes allaient construire des musées, et on a à peu près, alors évidemment aussi, les lieux d'éducation. Enfin, on reste toujours dans une sphère qui est toujours la même, mais jamais des sujets comme des parkings en silo, des centres commerciaux, et sans me vanter, mais enfin, disons que quand j'étais enseignant dans l'école d'architecture, j'étais le seul, et on me regardait avec des yeux ronds, comment peut-on faire des bâtiments qui sont des parkings ou des centres commerciaux ou des entrepôts comme sujet pour les élèves. En fait, dans la réalité, pour la première surprise passée, les étudiants, qui ne sont pas idiots, comprenaient très bien, justement, qu'on pouvait tout à fait créer des espaces soignés, et pas forcément chers, mais du fait qu'on puisse les planifier, on pouvait avoir des lieux qui étaient cohérents, agréables et intelligemment faits. Alors, effectivement, c'est pourtant, on ne manque pas de conseils à l'urbanisme, d'organismes comme les CAUE, des architectes conseils, des services d'urbanisme à la fois dans les grandes villes, mais aussi dans les communautés de communes. Alors là, la France, on est champion pour avoir de l'administration, des gens qui fabriquent des règlements, dont le rôle est justement de planifier. Mais on a des réglementations En veux-tu, en voilà, des quantités, on en a parlé ici, des réglementations. Alors là, les réglementations aujourd'hui environnementales, parce qu'évidemment, on veut sauver la planète, mais on se moque des gens et de la vie quotidienne des gens. Alors les réglementations pour sauver la planète sont redondantes, mais aussi ce qu'on appelle l'esthétique urbaine. On va embêter les gens pour la couleur de store, je suis sérieux, les réglementations, il faut un dépôt pour un changement de couleur de store de magasin. Par contre, les grandes surfaces commerciales, eh ben, on leur donne aucun règlement sur l'implantation, sur simplement, il y a les réglementations de parking et les gens font des grands parkings et on n'a aucun plan cohérent sur les aménagements de ce qui représente une, on peut dire, la moitié de la construction en France. Donc là, on est sur un problème politique, un problème d'éducation, un problème de responsabilité collective. Et donc aujourd'hui on dit oh que la France est moche et on va mettre de l'argent pour la démochiser, je ne sais pas comment pourrait-on dire, et sans voir que le problème, c'est simplement le problème, c'était de planifier. Et la planification urbaine, elle n'a pas attendu l'invention de l'urbanisme et des règlements d'urbanisme. C'est quelque chose que les peuples ont toujours su faire. Et simplement, notre époque, qui est si fière d'être à la pointe du progrès de la civilisation, est incapable de faire ce que les simples villages faisaient pendant toute l'histoire. Bon, on va marquer une pause musicale après ma diatribe.
J'habite une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. J'habite une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. J'aime les grenouilles et la pluie qui mouille et l'omelette au hanneton et l'omelette au hanneton. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Et tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Et j'habite une maison patate, à petit peu tout chante le coucou. J'habite une maison patate, à petit peu tout chante le coucou. J'ai du poil aux pattes, j'aime les tomates, et tirer la queue du hibou, et tirer la queue du hibou. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. J'habite une maison baignoire, à petit peu tôt dansent les crapauds. J'habite une maison baignoire, à petit peu tôt dansent les crapauds. J'aime les histoires, les pommes et les poires, et le bon gigot d'asticot, et le bon gigot d'asticot. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Et tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Et j'habite une maison chaussure, à petit peu tout le renard est roux. J'habite une maison chaussure, à petit peu tout le renard est roux. Je peins les voitures à la confiture, je les fais lécher par les matous, je les fais lécher par les matous. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. Tape du pied, frappe des mains, claque des doigts. tape du pied, frappe des mains, claque des doigts et...
Oui, alors quelle est la philosophie de mon propos de cette première partie? C'était, regardons dans les leçons du passé, où on arrivait à faire des villes cohérentes et on arrivait avec des entrepôts. Les entrepôts, effectivement, on les a démolis, les entrepôts qui étaient à Toulouse, sur les bords du canal, qui étaient d'abord des bâtiments qui étaient assez sympathiques, qui ont été détruits. À Bordeaux, les entrepôts lennais ont été conservés. En fait, les entrepôts, avec justement le rôle de stockage des produits, étaient... pour des raisons pratiques, intégrés au tissu urbain. Et aujourd'hui, on fait des bâtiments, alors des bâtiments de la France moche, mais enfin, on peut tout à fait, avec les techniques d'aujourd'hui, avoir des bâtiments de qualité, mais encore faut-il les ordonner. Donc mon propos, c'est de dire que regardons comment on faisait avant. Et ce propos est évidemment en contradiction avec les injonctions aujourd'hui ou des questionnements, on peut dire, par rapport à l'intelligence artificielle. Et je vois, par exemple, sur les réseaux, la manière dont la profession ou les jeunes professionnels ou étudiants s'interrogent sur le devenir de la profession avec l'intelligence artificielle. Alors on parle d'architectes qui sont vers le progrès et puis d'architectes qui sont des conservateurs, sachant que tout va énormément changer. Alors le plus amusant de l'histoire, c'est que en fait ce dont parle surtout, et c'est quand même... Non, ce n'est pas amusant, c'est assez inquiétant. Plutôt, ce dont on parle, c'est la représentation graphique. C'est-à-dire qu'en fait, comme si la finalité, c'était de faire des dessins, et effectivement, ces outils, aujourd'hui, sont importants. Mais les gens n'en ont rien à faire des dessins. Les gens, ils vivent dans des bâtiments, ils vivent dans l'agencement des bâtiments, et ils n'ont rien à faire des vues en 3D faites par l'intelligence artificielle ou les ordinateurs et par les BIM et autres... et autre logiciel fantastique, on n'en a rien à faire si le bâtiment est agréable, qu'il ait été dessiné à la plume d'oie, au crayon ou au doigt mouillé sur le sol. Tout ça est secondaire. La réalité, elle est construite. Donc, on est dans un faux débat, qui est un débat totalement virtuel, et... je suis tombé sur une émission par hasard, une émission qui est celle de Frédéric Taddeï. Frédéric Taddeï et les visiteurs du soir. Donc il recevait Michel Onfray, ce philosophe que tout le monde connaît parce qu'il est très médiatisé, et quelqu'un qui est médiatisé, mais un peu moins, qui est Laurent Alexandre. Et ce Laurent Alexandre était, on peut dire, dans un débat assez vif avec le philosophe. Alors, pour résumer le propos, on avait d'un côté Laurent Alexandre qui prônait le changement de l'homme par l'introduction de l'homme, de transhumanisme tel que Elon Musk le propose, alors de rentrer dans le cerveau des puces qui permettrait d'augmenter l'intelligence. Alors d'abord c'était pour donner des capacités à des personnes qui sont handicapées moteurs, et là je ne sais pas si on y arrivera, mais ce serait effectivement un progrès tout à fait souhaitable. Mais on va plus loin puisqu'on pense que on peut ajouter de l'intelligence. Tout ça évidemment, à mon sens, et de la science-fiction, et je dirais même de la science-fiction inquiétante, Et Michel Onfray, qui est d'ordinaire très sûr de lui et avec un verbe haut et rapide, était complètement submergé par le flot de paroles du scientifique Laurent Alexandre, qui effectivement prônait un homme, alors selon ses mots, je reprends, c'était la fin de l'homme 1.0 pour arriver à l'homme 2.0. Alors ce qu'il disait, c'est qu'il fallait contrecarrer l'intelligence artificielle qui allait supprimer l'humain et détruire l'humanité tout entière, parce que si on ne mettait pas ces puces d'augmentation de l'intelligence, parce qu'on allait être rattrapé par la machine. Bon, ça c'est les vieux mythes qui existent déjà dans les mythes grecs. Alors, il était absolument sérieux dans ses propos. Bon, moi, ça m'a fait à moitié rigoler, mais on peut dire à moitié, parce que c'est assez surprenant que ce genre de propos puisse être tenu. Et la question de Onfray, qui était sur la défensive, c'était de dire, oui, mais il y aura peu d'hommes qui auront accès à cette super intelligence. Alors, évidemment, Laurent Alexandre, il a dit, mais non, ça sera généralisé sur l'humanité tout entière. Et justement, le rôle de cet ajout d'intelligence artificielle dans le cerveau sera donné aux gens qui sont moins intelligents. Comme ça, on arrivera à l'égalité. Ah, l'égalité, évidemment, étant une grande vertu et une grande demande de notre pays. Alors, on allait compenser les moins intelligents et qui allaient devenir intelligents grâce à des puces qu'on allait leur injecter. Alors, il est évident que alors Onfray avait une réaction qui était, me semble-t-il, assez saine, et il disait mon père, qui avait arrêté l'école à 13 ans, était un homme qui maîtrisait parfaitement le français, qui savait s'exprimer et écrire sans faute de français ni de faute d'orthographe, et qui avait un raisonnement aussi. On ne pouvait pas trouver de faille dans la manière dont il raisonnait. Bon, je dirais à peu près la même chose du mien, père. Et donc, il se défendait du fait qu'il y aurait les intelligents qui étaient les diplômés. Alors lui, il a plusieurs diplômes, il est chirurgien, énarque, je parle de lui, Laurent Alexandre. Donc, il se considère comme faire déjà partie de la classe des super intelligents. Et puis, il y a la classe des non diplômés, et qui serait effectivement un peuple qui aurait besoin qu'on leur mette des puces dans le cerveau. Bon, tout ça est évidemment effrayant, mais surtout me paraît parfaitement imbécile, et surtout c'est un grand dédain sur le bon sens populaire. Et puis surtout, c'était, pour revenir aux propos de la première partie de l'émission, c'était justement d'oublier que c'est le passé qui nous nourrit, et des expériences du passé, avec évidemment une reconstitution avec les problèmes et les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre le passéisme du présent, faisons table rase et allons dans un retour nostalgique vers le passé, mais je m'oppose aussi du passé, faisons table rase, et d'un futur qui serait magnifique et qui nous amènerait le bonheur. On connaît ça, ça a été le propre des totalitarismes du XXe siècle. Donc, je pense à une position qui est ici exprimée souvent, c'est-à-dire nourrissons-nous des expériences du passé, et dans le cas, pour revenir au début du propos sur l'aménagement des villes, je pense que la leçon du passé est continuelle, et ce n'est pas la peine de chercher dans des réglementations et imbéciles et inutile que l'on va se battre contre la France moche, mais c'est en regardant comment justement elle a pu être belle. Je vous souhaite une bonne semaine.